Et nous accueillons Marion au 3921. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Marion et quel âge avez-vous ?
Je suis en région parisienne, j'ai 65 ans.
D'accord.
Et je suis médecin. Et c'est à ce titre que j'appelle.
Mm-hmm.
Et je voudrais parler un petit peu des messages nombreux, mais brouillés sur la protection contre le coronavirus. Parce que, comme nombre de mes confrères, je suis un petit peu perplexe, voire parfois désespérée, de voir le non-respect des gestes barrières qui sont préconisés et que les gens suivent de moins en moins. Donc, je me permets, si vous êtes d'accord, d'en parler et de les rappeler.
Mais non seulement je suis absolument d'accord, mais vous avez tout le temps qu'il vous faut pour... Eh bien, pour parler de ce dont vous voulez parler ce soir, ma chère.
Alors, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, parce que finalement, il n'y a pas tellement de gestes barrières. C'est vrai que vous venez d'évoquer le fait qu'on est confiné, qu'on est enfermé à domicile. C'est moins sympa qu'au mois de mai, parce qu'il ne fait pas beau, il n'y a pas de soleil, les jours sont gris. Et c'est quand même... ça ne donne pas le sourire quand on se lève le matin de voir le brouillard qui s'abat sur la ville, donc c'est vrai que c'est plus difficile à supporter. Et puis, par rapport à la première phase de l'épidémie, je pense que quand on s'est trouvé confiné au mois de mars, on espérait en fait venir à bout complètement de cette épidémie en une seule fois. Et là, on y revient et on perd forcément de sa motivation quand on est obligé de remettre plusieurs fois son ouvrage sur le même... De se remettre plusieurs fois au même ouvrage. Donc on s'aperçoit que les messages ont été très très nombreux pendant tout l'été. Tout le monde y a mis du sien, a expliqué que ça allait reprendre, que ça n'allait pas reprendre, qu'il ne fallait pas faire attention, qu'il fallait faire attention, qu'il fallait prendre un médicament ou pas. Et finalement, j'ai l'impression, et je ne suis pas la seule en fait, nombre de mes confrères sont dans mon cas, que ça a fini par brouiller complètement l'écoute des gens et par engendrer une espèce d'anesthésie émotionnelle qui fait que certes, on dit aux gens qui sont obligés de se conformer à certains gestes barrières et que finalement, ils essayent de le contourner discrètement, un petit peu, par différents moyens et finalement, c'est quand même une des larges raisons de l'extension et de la poursuite de l'extension de cette épidémie. Et c'est vraiment... il nous arrive quelque chose qui est exceptionnel. Aucun d'entre nous n'a vécu la guerre. On est tous nés après, ou la plupart d'entre nous en tout cas. Et en fait, c'est notre guerre. C'est une vraie forme de guerre. Sauf que, au lieu d'aller se battre, au lieu d'aller au front, eh bien, on est obligé de s'enfermer et de rester chez soi. Et résister, c'est ne rien faire. C'est très paradoxal pour gagner une guerre.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors, pour la gagner, en fait, il faut respecter certains gestes, qu'on appelle des gestes barrières. Le premier, je vais le dire en premier, mais je vais y revenir après, parce qu'il est assez important, c'est mettre un masque.
Oui.
Le deuxième, c'est d'être distant. Alors, non pas socialement, parce que ça, c'est pas un joli mot. C'est en train de changer, d'ailleurs. On parle maintenant de distanciation physique, ce qui est beaucoup plus logique, parce qu'on peut quand même avoir une vie sociale. Et le troisième geste barrière qui est très important depuis que l'hiver est arrivé et qu'on n'est plus à la terrasse des cafés, c'est d'aérer, même s'il fait froid.
D'aérer, d'accord. Mmh. Ce qui n'est pas beaucoup fait, hein, je vous le dis. Mais bon.
Ce qui n'est pas beaucoup fait, et on n'en parle pas suffisamment, mais l'aération, c'est un énorme facteur de diffusion très rapide des gouttelettes qui sont envoyées par la bouche quand on parle. Mmh. Et il est très, très important d'aérer. Donc, on va juste parler un petit peu du masque.
Aérer combien de temps, pardonnez-moi, Marion ?
Tout le temps.
Tout le temps.
Quand il y a quelqu'un chez vous, la fenêtre doit être ouverte.
D'accord. C'est ce pourquoi notre réalisateur ouvre grand les fenêtres tous les soirs et qu'à la sortie de l'émission, on a froid, très froid. Mais il a raison, donc.
Alors, en fait,
il faut aérer.
Mais oui, mais en fait, il y a un moyen de ne pas avoir froid.
C'est de se couvrir.
Il faut mettre un pull. Donc en fait, quand on vient chez moi, moi j'ai un fils qui habite tout près et qui veut quand même passer voir ses parents, et ben, on est dehors, on a la chance d'avoir un jardin, ou bien on a la fenêtre grande ouverte et on garde son pull. Mmh. À vrai dire, j'ai investi dans un poncho des Andes, là, qui me tient bien chaud quand la fenêtre est ouverte. Mais aérer, c'est ça, il faut que l'air circule, en fait.
D'accord.
Donc ça, c'est un des grands secrets du coronavirus. Et c'est pour ça que c'était, en fait, probablement, il y a eu très peu de diffusion de l'infection, parce que tout le monde était dehors. Et qu'on sait que des clusters en extérieur, il n'y en a pas. Il y a toujours un ou deux articles qui disent l'inverse des autres, mais il n'y a pas de gros clusters de contamination à l'extérieur. Mmh. À l'extérieur, les gouttelettes de coronavirus se diluent dans l'air ambiant. Et puis ensuite, on va parler du masque.
Alors ce masque, oui, parce que j'en ai entendu beaucoup sur ce masque.
On est désespérés avec les histoires du masque. Alors un masque, ça se met sur la bouche et sur le nez. Et alors l'autre jour, je suis sortie de chez moi. C'est vrai qu'en région parisienne, on est obligé d'avoir un masque dehors. Un petit peu agaçant, parce que finalement, quand on est seul dehors, c'est vrai qu'on risque pas de contaminer grand monde, mais bon, c'est obligé, donc quitte à le mettre, autant le mettre correctement. Je me suis dit que j'allais compter le nombre de gens qui n'avaient pas bien mis leur masque, et puis arrivé au bout de la rue, je me suis dit que finalement, j'allais compter ceux qui le mettaient correctement, parce que ça irait beaucoup plus vite. J'avais pas assez de doigts sur mes mains. Le masque, ça se met sur la bouche et sur le nez. Ça se met correctement.
Oui.
On passe notre temps à rencontrer des gens qui ont le masque sous le nez, qui disent qu'ils ne peuvent pas respirer. Mmh. Bon, c'est vrai que ce n'est pas très physiologique d'avoir un masque, encore que les médecins en sont habitués. J'ai même un copain qui est urgentiste l'autre jour, il s'est couché avec son masque, il a oublié de l'enlever tellement il l'avait oublié.
Oui, mais on peut penser que c'est par défaut professionnel qu'on peut se coucher avec un masque, vous ne pensez pas? Il devait être épuisé aussi peut-être.
Oui, mais bon, quand on le met et qu'on n'y touche plus, oui, on finit par oublier qu'on a un masque. On s'habitue. Enfin, on a du mal, les médecins, à comprendre pourquoi les gens disent qu'ils ne peuvent pas respirer avec un masque. J'ai vu un petit docteur l'autre jour qui était énervé parce que quelqu'un ne voulait pas remettre son masque dans la salle d'attente, qui lui a dit, en prétendant qu'il respirait mal avec le masque sur le nez. Et elle lui a dit, on respire beaucoup moins bien avec le coronavirus dans les poumons. Mmh. Hélas. Et c'est souvent d'ailleurs des personnes âgées qui mettent mal leur masque, c'est dommage. C'est souvent des gens qui sont tous ensemble en train de discuter et qui sont très rapprochés et qui mettent mal leur masque. Et donc évidemment, les espaces clos où on est proche, où on n'aère pas et où on a pas bien mis son masque sont des vecteurs de cette infection. Donc, ça explique pourquoi on a fermé les restaurants, ça explique pourquoi on a fermé tous les lieux en fait, où les gens se réunissaient et se sentant à l'abri parce qu'ils étaient avec des gens qu'ils connaissaient. Ils enlevaient leur masque et là, ils se contaminaient.
Alors, on a parlé beaucoup de l'air, là, Marie et Marion. Et comme Marie nous l'écrit au 739-21, et le lavage de mains, il est essentiel aussi, non?
Alors, il est très important aussi, oui, parce qu'il y a une transmission probablement par du coronavirus posé sur les objets.
Oui.
C'est très difficile à estimer. Ils en parlent dans les écoles éventuellement quand il y a des cas de cluster dans les écoles. Là, j'ai appris qu'il y avait une école où il y avait énormément de personnel infecté. Mais j'étais hier avec une amie qui est médecin scolaire et qui me disait avoir vu en salle de réunion à l'école tous les animateurs qui attendaient de prendre les enfants et qui étaient en train de faire un jeu dans une pièce fermée et sans leur masque. En fait, le problème de cette maladie, comme de toutes les maladies d'ailleurs, c'est triste de dire ça et d'être obligé de le dire, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux gens qu'on connaît. Quand on se dit, lui, je le connais, il s'appelle Marion ou Olivier, il a une bonne tête, puis je le connais bien, tout. Donc je vais enlever mon masque puisque je le connais bien. Mais en fait, on ne sait pas qui Marion ou Olivier a rencontré dans les 3-4 jours précédents. Et il arrive avec le passif des gens qu'il a rencontrés précédemment, et peut-être qu'il est en train de couver ce coronavirus, puisqu'il est contagieux à peu près 48 heures avant d'être cliniquement évident.
Oui, et puis,
c'est pour ça qu'ils sont en semaine.
Et puis Marion, il y a aussi cette attitude d'après confinement qui, en fait, a vu le comportement de certains d'entre nous évoluer. Pas vers le bien, mais plutôt vers le négatif, mais sous couvert de finalement ça y est, c'est derrière nous, et recommencer les accolades, recommencer et sous une attitude de Mais non. Mais on va marquer une pause et on va pouvoir peut-être énumérer le type de comportement qui peuvent être dangereux aujourd'hui et qui continuent à avoir la peau dure, si vous le voulez bien. On marque une petite pause et on se retrouve tout de suite, d'accord ?
Ok.
À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est 22h45 sur Europe 1, c'est votre libre antenne. Nous sommes toujours avec Marion qui évoque ce soir ce Covid et toutes les conseils et l'attitude que nous devrions toutes et tous avoir, mais qui malheureusement, depuis le début, voit pas mal d'entre nous ne pas assez se méfier de ce Covid, Marion, en fait.
Oui, c'est ça. En fait, on fait confiance aux gens qu'on connaît. Et malheureusement, on peut leur faire confiance, on peut même les voir. Enfin, moi, je travaille, donc je vois des gens et j'ai mon fils qui vient me voir, j'ai quelques copains qui passent le moins possible, mais a priori, c'est des gens dont on doit se protéger. Et c'est que pour quelques mois, ça va être fini un jour. Mais pour l'instant, quand on voit des gens qu'on connaît, on ne sait pas qui ils ont vu précédemment, eh bien on garde son masque. C'est pas grave, en plus on les connaît, le bas de leur visage, on le connaît déjà. C'est plus compliqué quand on ne connaît pas les gens.
Oui, complètement, vous avez raison.
D'en voir que la moitié. Mais bon, moi, mon fils, qui circule pas mal par son boulot, bah, il vient me voir avec son masque en permanence. Moi, ça ne me dérange pas de voir mon fils avec un masque, en fait. Ça fait depuis qu'il est né, je connais sa tête. Donc, si je ne la vois pas pendant quelques mois dans la partie basse, je m'en remettrai très bien. Et comment il faut faire pour ne pas enlever le masque quand on est avec des gens, en fait ? Parce que finalement, on se voit, on met un masque, on ne se prend pas dans les bras, on ne se serre pas la main. Et puis à un moment donné, allez, ça y est, tout le monde tombe les masques parce qu'on boit l'apéritif et on se met à table. Et en fait, je pense sincèrement qu'on peut continuer à avoir une vie sociale, mais qu'il ne faut ni manger ni boire quand on est avec des gens. Il faut se voir. Le plaisir de se voir, mais pas de partager. Mmh. Alors c'est sûr que c'est pas très français. Hein. La convivialité française, c'est de manger et de boire. Mais là, provisoirement, quand on a les gens qui viennent et qui sont proches, eh bien, on ne mange pas avec eux et on ne boit pas avec eux. Et d'ailleurs, une grande partie des infections se produisent dans les salles de réunion au boulot, là où les gens vont prendre leur café. Et c'est toujours selon le même schéma. Je le connais, je travaille avec lui, donc j'ai confiance en lui.
Mais comment faites-vous, par exemple ? Oui, je suis complètement d'accord. Mais par exemple, vous ne voyez donc, vous ne mangez avec personne, vous ne partagez, vous avez de la famille, des enfants, je ne sais pas, des gens que vous voyez, mais vous ne déjeunez pas avec eux ou quoi que ce soit.
Alors, on déjeune avec un mètre d'éloignement et la fenêtre ouverte. Et mon fils est passé déjeuner hier. On a mis la rallonge sur la table. Il s'est mis à l'autre bout de la table. On a gardé la fenêtre ouverte. Et on ne se met pas l'un en face de l'autre.
D'accord. Bon.
C'est un petit peu acrobatique et curieux. Et j'ai une amie qui avait invité quelqu'un, et ben elle a mis deux tables, elle s'est mise avec son fils, elle vit avec lui à table, et puis elle a mis son invité sur une table d'à côté, un mètre plus loin. En fait, c'est ça. Alors c'est sûr, on peut voir des gens dans ces conditions-là, mais il faut bien penser à respecter ces conditions-là. Et il y a un monsieur de ma rue qui est malheureusement en réa, enfin bon, il a l'air d'aller mieux. Un grand bien lui fasse, mais c'est son fils qui l'a infecté en venant s'occuper de son père, parce que effectivement, on arrive chez ses parents et là, on fait plus attention, et on est trop près, ou justement, on enlève son masque pour boire un petit coup parce que on est venu chez eux. Donc, il faut faire très attention à tout ça.
D'accord.
La barbe.
Non, mais c'est un bon rappel, une bonne piqûre de rappel, si vous voulez. Cela traduit quand même. Peut-être, hein, je m'avance, mais ça traduit quand même une grande peur que vous avez aussi, vous, de ce virus, ou votre agacement devant un incivisme permanent,
Alors, moi, j'ai pas peur, encore que je suis pas toute jeune, et je suis un peu trop grosse, donc je fais partie des gens à risque. Personnellement, si on doit attraper quelque chose en ayant fait attention, c'est que ça devait se produire. Mais là, les hôpitaux, ils sont de nouveau submergés. Les médecins et les soignants sont épuisés. Et c'est la première fois dans l'histoire de la médecine que des hôpitaux sont remplis à 80-90% d'une seule pathologie. Mmh. Ça n'est jamais arrivé. D'habitude, à l'hôpital, il y a de la cardio, de la neuro, de la gastro. Hein. Tout cela, actuellement, alors c'est un petit peu mieux sur cette deuxième vague parce qu'il y a une meilleure organisation et que ça s'est réparti aussi un petit peu plus sur toute la France. On arrive encore à soigner des gens, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de retard de prise en charge, notamment pour des cancers. Mais c'est la première fois qu'on ne peut pas soigner d'autres gens que des gens qui ont le coronavirus. Que l'hôpital est complètement embolisé par ça. Les soignants, d'abord, sont extrêmement touchés. Là, j'en connais plusieurs qui sont malades, j'en connais plusieurs qui sont morts. Il faut pas penser qu'ils sont épargnés. Alors, on s'est ému énormément au mois de mars sur les premiers soignants morts du Covid, mais maintenant, ils meurent dans l'indifférence générale. Et pourtant, ils continuent à être énormément infectés et certains disparaissent. Donc, il faut que ça puisse s'éteindre le plus vite possible. Et comme c'est une maladie qui passe d'un humain à l'autre humain, pour pas qu'elle passe d'un homme à un autre, eh bien, il faut mettre une barrière, et ça s'appelle les gestes barrières.
Oui, vous avez bien, vous faites bien de nous rappeler tout ça. Mais vous, de votre point de vue, en fait, de médecin, vous pratiquez toujours, Marion ?
Non, moi je ne fais plus de consultation. Je
D'accord.
m'occupe de télémédecine.
D'accord. Alors donc,
des médecins qui font de la télémédecine.
En vous promenant comme ça, et même, je voudrais plus savoir votre avis sur l'avant confinement, c'est-à-dire sur cette espèce je n'arrive pas à trouver le mot, ça m'énerve. Vous savez, de frivolité, de légèreté,
oui, d'inconscience,
oui. Dans, qu'est-ce qui vous choquait le plus après le déconfinement, c'est-à-dire bien un mois et demi, deux mois passés, c'est-à-dire courant octobre, par exemple, parce que moi, je trouvais que vraiment que y avait beaucoup de personnes qui étaient totalement insouciantes. On a même eu, vous savez, Nicolas Bedos qui à un moment a lancé cet appel qui pouvait traduire un certain ras-le-bol hein, ou une baisse de tension. Mais en tout cas, y avait dans ce message une insouciance partagée par beaucoup, en fait, comme quoi c'était derrière nous. Et finalement, on s'aperçoit qu'on est à nouveau au même nombre de contaminés, voire plus, et même nombre de décès par jour. Je l'ai encore entendu tout à l'heure aux infos. Donc,
moi, je pense qu'il y a une responsabilité collective aussi dans le fait que c'est reparti comme ça. C'est que des gens qui sont médiatiquement très en vue ont envoyé des messages qui étaient brouillés, contradictoires, délétères, à commencer par mes collègues. Hein. Je ne les mets pas en dehors du panier. Il y en a que je connais depuis très longtemps qui tout d'un coup sont arrivés à la télé pour dire mais non, tout va bien, il n'y aura pas de deuxième vague, Et en fait, c'est assez normal. On s'accroche à ce qu'on a envie d'entendre. C'est un petit peu comme ça en toute matière. Donc les gens se sont accrochés plutôt à ceux qui disaient « Mais non, 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 ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de deuxième vague. » Ou « Arrêtez de nous casser les pieds avec ça. » Comme disait Bedos, donc c'est pour moi le fait que les messages aient été complètement brouillés tout l'été a conduit à ça. Et c'est vrai que même le gouvernement, il n'arrive pas à avoir vraiment un message qui soit très clair. Même si je trouve que Olivier Véran se débrouille bien, hein, j'ai rien à dire et je voudrais voir les autres qui critiquent à leur place. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui ferait mieux. Mais par contre, dans les messages, à mon avis, c'est un petit peu trop brouillé. Ce n'est pas assez clair. Mmh. Et humainement, c'est logique. On écoute ce qu'on a envie d'entendre. Donc on vous disait, bah, ça va aller mieux. Ceux qui disaient, non, ça va recommencer. Bah, celui-là, il est pessimiste. On ne veut pas entendre parler de lui. Et les gens ont écouté ceux qui le... qui leur convenait. Jusque tard, toujours trop tard, parce qu'on attend toujours un petit peu trop tard pour prendre les décisions.
Ok. Voilà,
donc c'est ce que je dirais du fait que cet été, on a été un petit peu inconscient. Et puis on s'était tellement appliqué la première fois, quand même. Parce que là, le premier confinement, les gens, ils ont été très, très sérieux.
Oui. Ils ont été très très sérieux, mais on voit que ce nouveau confinement traduit quelque chose vraiment de très clair. Moi, je trouve, hein, c'est que il est impossible de reconfiner les gens.
Bah, on tue l'économie. Hein.
Non, mais au-delà de ça, même, je veux dire, passons le paramètre économique. Reconfiner les gens comme la première fois, comme ça l'a été février, mars, avril. On sent que dans la tête des gens, c'est non. C'est pour la plupart, c'est non. C'est impossible voilà. Et je crois que le problème, il est aussi là, parce qu'il y a une liberté qui est impactée là, une liberté de bouger, il y a quelque chose qui impacte notre inconscient dans cette notion de liberté et de privation de mouvement.
Oui, mais en fait, moi je suis revenue à ce que disait Macron à son premier discours. On est en guerre, en fait. On est obligé de lutter contre quelque chose. Sauf que cette lutte, elle consiste pas à aller se battre, elle consiste à rien faire, à pas bouger. C'est complètement paradoxal. Qu'avant, on avait un ennemi identifié, on partait, on allait au front. D'abord, c'était en premier les militaires qui mouraient, et puis pas la population civile, alors que là, la population civile, c'est elle, ça tombe directement sur elle. Mais faire une guerre, c'est se battre. Et là, on vous dit, faites la guerre, mais surtout, ne vous battez pas, ne faites rien. Restez chez vous, enfermez-vous, voyez personne, ou moins de gens possible, et quand vous les voyez masqués, vous les touchez pas. Donc c'est exactement antinomique de se battre.
Mmh, vous avez raison.
De se battre en faisant rien.
Merci Marion, en tout cas, de votre intervention, de ce rappel.
Je suis
désolé, alors je vais vous garder, parce que là, je n'ai pas le temps, en fait, je vais vous garder pour après l'info.
Ceux qui se disent résistants.
Alors, on se retrouve après l'info, d'accord, à tout de suite. 23h passées de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1, et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39-21 et peut-être aurons-nous le plaisir d'échanger ensemble tout à l'heure, chers amis. Vous êtes assez nombreux à avoir réagi au témoignage de Marion Patrick, le routier, qui lui dit qu'il faut faire attention, mais ne pas tomber dans une peur hystérique. Il y a Cathy qui nous dit qu'elle est non-voyante, qu'elle ne peut pas porter de masque à l'extérieur, qu'elle ne peut pas se guider avec le masque et que par conséquent, elle a une ordonnance qui lui permet de ne pas porter ce masque dehors. Et puis Cathy qui nous dit qu'elle voulait demander, mais bon, elle voulait demander à Marion pour quelle raison elle nous dit de porter un masque à l'extérieur. Je crois que Marion a précisé que à l'extérieur, il pouvait y avoir, selon la distanciation, encore ces problèmes de ces fameuses gouttes. Bon, l'intérieur, à l'intérieur, on sait que il faut se protéger, il faut continuer de se protéger et ouvrir. Hein, donc, c'est ce qu'on aura appris du témoignage de Marion, essayer d'aérer en permanence, même s'il fait froid. Bon, et à l'extérieur, bon, je pense qu'il faut respecter les distances, mais je crois que ça, on aura tous intégré tout ça. On accueille... Mais j'ai toujours Marion au téléphone. Vous voyez, Marion, je l'ai persuadé qu'on s'était quitté. Vous vouliez rajouter quelque chose, Marion, pardonnez-moi.
Mais excusez-moi, je ne veux pas monopoliser l'antenne. Non, je voulais juste rajouter un truc. Il y a eu ce week-end une histoire avec une grande fête, je crois, de 300 personnes.
400.
Il y en a plusieurs. 400. C'est des gens qui disent qu'ils font de la résistance. Alors, faire de la résistance, c'est pas ça. Ça, j'appelle ça de la connerie. Et ceux qui font ça, ils font des conneries. Là, il est passé dans le monde de réalité biomédicale, un mariage, 55 personnes, 7 enterrements. Donc, non, faire de la résistance, c'est pas du tout ça. Faire de la résistance, c'est suivre ce qu'on demande de faire, malheureusement. Alors, le masque dehors, pour moi, c'est pas important. Sauf quand on est dans un endroit où il y a beaucoup de monde, etc. Malheureusement, ce n'est pas moi qui fais les règles. Et, c'est obligatoire dans beaucoup d'endroits. Donc, puisque c'est obligatoire, faisons-le.
Bah, vous aurez toujours hein, des gens comme ce week-end qui pratiquent la connerie à haut niveau, comme vous dites. Mais bon, je crois qu'ils ont précisé qu'ils étaient 400, mais que tous n'avaient pas de grands-parents, de personnes âgées dans leur...
Ils ont
une
famille.
Voilà. Merci mille fois, Marion, pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1, en tout cas. Mille merci. Et passez une bonne nuit.
Vous aussi.
Au revoir.